Fédération a créé cet espace de réflexion éthique en 2010. C'est donc la 14e réunion. Espace de réflexion éthique pour les soins en psychiatrie. Ce qui signifie que ce n'est pas seulement les psychiatres, les médecins qui sont concernés, mais la totalité des soignants et aussi les usagers et les familles. Alors, merci d'être venu ce soir. Je ne vais pas saluer tout le monde, un petit coucou quand même au docteur Platel, mon collègue du Conseil régional de l'Ordre des médecins, et Dieu seul sait si la déontologie est une obligation encadrée par le Code de santé publique, que l'éthique c'est finalement ce que nous souhaiterions qu'on ne nous fasse pas à nous. Donc je crois que les conseils de l'Ordre sont bien concernés. Un petit coucou aussi au docteur Muller, un fidèle de la Fédération, président de la Conférence nationale des présidents de CME de CHS, mais aussi parce que j'ai regardé un peu les inscrits, aux directrices, aux directeurs d'école, de sages-femmes ou d'infirmiers. Et donc, merci d'être là. Merci au professeur Pruvot qui anime l'espace de réflexion éthique universitaire et qui très très tôt, il faut le dire, a voulu que l'éthique soit partie prenante des décisions, à côté à la fois des compétences et des technologies universitaires, pour ne pas oublier que la médecine est avant tout, s'adresse à un être humain. Alors, j'aurais voulu remercier le professeur Gosset de vis-à-vis, mais malheureusement, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la première journée des épreuves nationales classantes. C'est à Douai et il y a eu un gros ennui technique, puisque dans les deux halls où se passaient les épreuves, il y a eu une panne de courant. Et donc, M. Gosset est en train, naturellement, d'essayer de récupérer les choses. Et ce n'est pas évident, surtout pour les jeunes étudiants. En tant que doyen, il est là, bien sûr, pour garantir la qualité de l'enseignement universitaire, mais il est là aussi pour veiller au bien-être psychologique de ses étudiants. Merci à Mme Parent d'avoir, je sais que c'est une période un peu difficile en ce moment pour elle, mais néanmoins, elle a voulu être présente parmi nous ce soir, et je la remercie. Merci à M. Bourri aussi d'avoir répondu présent à notre invitation. Puis bien sûr, le professeur Dupuis. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis particulièrement belgophile, et pas seulement à cause de la BD. Le docteur Prognier, si elle est dans l'assistante, vous direz que je suis une fan de Boulébile depuis que je suis toute petite. Mais c'est vrai que j'apprécie à la fois le pragmatisme et la chaleur humaine de nos voisins belges. Le professeur Dupuis et moi-même avons fait connaissance dans les Ardennes belges lors d'une journée éthique organisée par un foyer résidentiel pour personnes handicapées. Et moi, je vous invite d'ailleurs à aller faire votre propre opinion sur la prise en charge en Belgique des personnes handicapées. Merci à Charles-Édouard Notre-Dame et de façon générale au bureau des internes de psychiatrie de Lille. Je pense sincèrement que plus on vieillit et plus on s'enrichit du contact avec les jeunes, parce que les jeunes nous obligent, et pas seulement nos enfants, à remettre en cause nos certitudes. En proposant le thème de ce soir, Charles-Édouard m'a fait rajeunir de 42 ans, donc merci beaucoup Charles-Édouard. J'avais à peine 20 ans quand un jeune garçon en hématologie est mort dans mes bras, et c'est vrai que je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'ai toujours remercié le jeune chef de clinique de l'époque, qui est devenu professeur après, qui est en retraite maintenant, et qui est resté un très bon ami, Francis Botters, et qui m'a dit tout simplement « Allez petite, viens, on va prendre un café », et qui m'a permis effectivement de parler. Alors, je voulais dire bonne et riche soirée à tous, mais je vais tout à fait temporairement prendre la casquette de doyen, puisque M. Gosset m'a demandé de dire deux ou trois mots, il vient de me téléphoner. Vraiment, il voulait être là. Et alors, il voulait d'abord féliciter Charles-Édouard, rappeler que Charles-Édouard, eh bien, c'est pour la faculté de médecine de Lille aussi une joie, puisqu'il a été, je ne le savais pas, en D4, il a été envoyé à Harvard, et qu'il n'y en a que deux par an qui font ce cursus. Alors, lui aurait dit que peut-être que le mot « violence » était un mot trop fort, et qu'il préfère les situations difficiles, mais qui sont des situations, effectivement, qui peuvent générer de l'anxiété. Il était d'accord, d'ailleurs, avec M. Pruvot, ce que vous venez de dire, M. Pruvot, en disant que, parfois, effectivement, ces situations difficiles sont nécessaires pour que l'étudiant en médecine devienne médecin, pour qu'il puisse, peu à peu, façonner, mobiliser ses ressources internes, mettre en place des mécanismes de défense, parce qu'il pourra comme ça se protéger, rester, exercer de façon, me disait-il, objectif, sans se laisser envahir par une émotion, une vulnérabilité, qui est le pain quotidien parfois dans notre exercice. Il me dit que, pour autant, il faut essayer, le mot prévention est un mot qui est très, très, très important aujourd'hui, et que la prévention, effectivement, de ces situations difficiles, eh bien, il faut que chacun, nous les plus anciens, les professeurs qui sont là en prennent également conscience, prennent le temps de se réunir, prennent le temps de débriefer. Et il me disait, c'est particulièrement vrai, donc il se rapprochait de son exercice en salle d'autopsie. Et bien souvent, les étudiants, avant même de rentrer en salle d'autopsie, eh bien, ont peur, peur de ce qu'ils vont voir, peur de ce qu'ils vont sentir, puisque là, il y a en plus cette odeur, peur de ce qu'ils vont toucher un mort, c'est pas toujours évident. Et il disait que d'une manière ou d'une autre, quand même, en tirant sa propre expérience, on n'est quand même jamais vraiment blindé. Et il me racontait une expérience qu'il a vécue, lui, alors qu'il était professeur de médecine légale, mais qu'il a été appelé un soir, c'était dans le brouillard, c'était la nuit, c'était du côté de l'île sud, et dans un terrain vague, il a découvert une petite fille qui avait 8-10 ans, qui avait été tuée, qui avait été violée, qui avait la tête dans l'herbe, et on voyait qu'elle s'était crispée pour essayer d'échapper. Et il me dit, ben, malgré tout, quel que soit l'âge, en rentrant chez moi, il a quand même fallu que je prenne du recul, parce que c'était pas évident, et j'ai pas du tout été bien pendant plusieurs jours. Donc voilà ce que je voulais dire en mon nom propre, en tant que présidente de la fédération, en vous renouvelant mes remerciements d'être là, en vous disant que cette fédération n'est pas la mienne, c'est la vôtre avant tout. Et puis maintenant, je me tais et je passe la parole à M. Pruvot, à M. Bureau, Mme Caron et Charles Lebois, et M. Dupuis.